podcast How You. Je m'appelle Patra et je suis en compagnie de Vicky. Salut Vicky. Ça va?
Ouais, toujours là.
Donc là, ça fait 2 mois. Ouais, on va dire. Ouais, ça fait 2 mois qu'on n'a pas enregistré. Bon, pour être franche, on s'était déjà dit de toute façon qu'on va, on va essayer de garder un rythme plutôt cool par rapport à nos emplois du temps respectifs et tout ça.
C'est ça.
Et donc là, on va dire que le premier trimestre 2018 s'est achevé. On a attaqué le deuxième et donc là, je me suis dit que c'était le bon moment de se retrouver pour faire un petit peu le point sur la K-pop, enfin sur notre vie de fan de K-pop. Et donc pour ce nouvel épisode, moi, je voulais te proposer de qu'on discute un petit peu de l'homosexualité dans la K-pop. À cause. C'est surtout qu'au mois de janvier, il y a eu les débuts de celui qu'on a présenté comme le premier chanteur ouvertement gay de la K-pop. Je pense que 3 mois après, on peut déjà faire un premier petit bilan pour voir où il en est un petit peu. Et surtout, discuter un petit peu de comment l'industrie K-pop. Se sert de la culture queer et comment elle représente l'homosexualité. Est-ce que c'est un sujet si tabou que ça? Parce que les médias occidentaux le présentent vraiment l'industrie K-pop comme une industrie homophobe, et, ou en tout cas beaucoup plus que les industries occidentales. Ou est-ce que c'est vraiment parfois utilisé comme une stratégie marketing? Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Holland, c'est un jeune chanteur qui a débuté en janvier 2018 avec un premier clip qui s'appelle Neverland. À ce jour, le clip comptabilise plus de 8 millions de vues et il a même eu droit à un article sur le site Billboard. Même si, bon, personnellement, je le dis franchement, hein, c'est pas parce qu'on a un article sur Billboard que forcément, ça y est, on a percé. C'est juste que, il surfe sur la vague.
C'est pour maintenant, quoi.
Oui, voilà. Et donc Holland, en fait, il a même été numéro 1 de certains classements iTunes dans d'autres pays, sur une ou deux journées, donc c'est quand même pas mal, faut le dire. Mais il ne fait aucune promo de son titre. Alors j'ai cherché, mais vraiment, hein, je suis allée dans les pages genre à 20, 25 sur Google et sur Nate pour voir les news. Il n'y a rien, il n'y a pas de news sur lui. Il y a quelques rares interviews qu'il a données le jour de la Saint-Valentin.
Ok.
Et on l'interroge. Je crois que c'était surtout pour l'interroger sur le mariage homosexuel, ce genre de choses. Mais c'est bateau, quoi. Il ne fait pas de promo, on ne le voit pas à la télé, on ne le voit pas dans les émissions de divertissement.
Ouais, mais est-ce qu'il y a accès autant que quelqu'un?
Donc voilà,
qui
c'est
fait
ça, c'est ça. Je sais qu'il y a une vidéo qui est accessible sur YouTube, hein, où il donne une interview disant que effectivement c'est plus compliqué pour lui parce qu'il fait tout en indépendant, en fait. Et il n'a pas. Donc il a contacté, depuis qu'il a débuté, il a contacté des agences pour. C'est plus facile d'avoir une agence pour gérer une carrière. Et que pour l'instant, il attend d'avoir des retours, mais. Mais donc il a aucun soutien d'agence, il n'a pas le soutien d'artistes. Alors je pense que Hong Sung-shun a dû dire quelques petits trucs sur lui. Donc Hong Sung-shun, c'est la première célébrité qui a fait son coming out en 2000. Il avait 30-31 ans à l'époque, il était vraiment au sommet de sa popularité à ce moment-là. Et en fait, son coming out s'est passé. En fait, c'est un acteur et puis il apparaissait dans les émissions de variété, il présentait, il était invité, tout ça. Et il a participé à une émission et on lui a demandé quelles étaient ses préférences. Et il a dit franchement qu'il était gay, enfin qu'il préférait les hommes. Les producteurs de l'émission avaient fait le choix de ne pas diffuser cette partie de l'émission,
Justement.
sauf qu'il y avait un journaliste qui était présent et qui en fait a publié la news. Et à partir de là, ça a été le début de la descente aux enfers pour lui parce que on l'a blacklisté pendant plusieurs années.
Et encore, il s'en est bien tiré au final. Je veux dire, il a bien tiré son épingle du jeu par rapport à la situation dans laquelle il a été mis, hein. Franchement.
Bah, pendant 10 ans, il n'était plus du tout en télévision, donc il a profité de ces 10 années pour développer des restaurants, une chaîne de restaurants dans le quartier d'Itaewon. Il s'est aussi investi au niveau de la communauté LGBT plus, LGBTQ et plus. Surtout, je sais que j'ai lu plusieurs interviews de lui sur ces 2 ou 3 dernières années. Je pense qu'à terme, il se voit bien faire de la politique. Peut-être dans une dizaine ou une quinzaine d'années, vraiment se lancer en politique et afin vraiment de militer pour les droits, mais de façon efficace. Donc c'est ça qui c'est mais à chaque fois en fait il revient toujours sur lui comme exemple que ça fait 17 ans donc aujourd'hui ça fait 18 ans qu'il a fait son coming out en tant que célébrité et il est toujours le seul la seule célébrité coréenne sud-coréenne qui est ouvertement gay. Alors à chaque fois qu'on parle de Hong Sang-cheon, on va aussi parler de Harisu. Donc moi, après, je suis plus réservée par rapport au fait de les associer tous les deux parce que Harisu, c'est une trans. Et c'est une trans hétéro. Donc, c'est pas. Enfin, ils n'ont pas les mêmes. La même trajectoire au niveau de la carrière, de toute façon. Elle a fait beaucoup de sa carrière en Chine. Et en tant qu'actrice, son but, ça, enfin, elle est chanteuse aussi, mais je crois que son but, ça a toujours été d'être plus actrice. Et elle a pas cette volonté d'être activiste comme Hong Sang-cheon peut l'avoir. Je veux dire, elle soutient sa communauté, elle se cache pas de toute façon, elle s'est jamais cachée. D'ailleurs, elle a divorcé, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Moi, je sais que je m'étais dit, oh ben je pensais pas, parce que franchement, le couple qu'elle représentait avec, je crois que c'est Mikey, je crois, son ex-mari. Ben voilà, on les présentait vraiment comme un couple. Couple Gaulle, ils étaient acceptés par les médias et enfin, dans les médias, on les traitait bien, ils avaient une bonne image. Je ferme la parenthèse sur Halisu. Donc tout ça pour dire que le fait de voir Hollande maintenant dans la communauté K-pop, c'est vraiment, je pense que c'est une des manifestations d'un changement dans, ne serait-ce que par rapport aux artistes et dans leur attitude. Sur la façon de gérer leur carrière. Et en fait, on présente Hollande comme le premier chanteur ouvertement gay, mais il faut savoir que l'année dernière, il y avait déjà un chanteur qui s'appelle Marshall, et lui, c'est plutôt un chanteur de R&B, qui avait débuté. Donc, il est coréen-américain, il s'est fait repérer pour participer à une émission de télécrochet, donc il a déménagé de New York pour venir sur Séoul en 2012. Il a jamais caché qu'il était gay. Il n'est pas allé pour dire ouais, moi je suis gay, non, mais il l'a jamais caché. Il a donné une interview qui parlait de son homosexualité. Et il a dit, bon ben, c'est clair qu'en Corée du Sud, il y a encore de gros préjugés par rapport à ça, mais sa volonté n'est pas de se cacher, c'est ce qu'il est, donc il vit avec. Enfin, il.
Ouais, il se prend pas trop la tête sur le
Non.
sujet, quoi.
Et donc sa chance, c'est que contrairement à Hollande qui n'a pas trouvé de label, lui il est signé chez Feel Good Music, qui est le label géré par Tiger JK et Yun Mirai.
Non, en même temps, ça, c'est des gens qui sont pas trop sur les préjugés en règle générale, donc
Bah, Yun
ça
Mirai,
aide.
c'est Queen, c'est la Queen, voilà, tu peux
C'est
pas.
ça.
C'est la Queen, donc elle s'est juste payée amour. Est-ce que l'industrie K-pop, en fait, est-ce que pour l'industrie K-pop, l'homosexualité, est-ce que c'est un sujet aussi tabou que ça? Ou est-ce que c'est aussi vu comme une stratégie marketing? Donc en fait, quand on est fan de K-pop, il y a certains termes à connaître, parce que sinon, on est complètement perdu sur pourquoi les idoles se comportent de cette façon. Alors tout d'abord, il y a le fan service. Toi, comment tu le définirais?
Le fan service, de manière générale, c'est de faire ce qu'attend le public, en fait, tout simplement, ce qu'espère le public. Et enfin, selon les supports et les milieux, ça peut être reflété de plein de façons. Et il se trouve qu'en K-pop, dans les fandoms, il y a toute une histoire de fantasmes autour des pairings dans les groupes. Donc tout le côté transgressif des pairings homosexuels, puisque les groupes souvent sont soit féminins, soit masculins, les groupes mixtes sont assez rares. Et du coup, comme c'est des gens qui ont été entraînés ensemble pendant très longtemps, ont vécu ensemble pendant très longtemps, on aime bien justement imaginer que leur complicité va au-delà. Et les fandoms aiment bien développer donc des pairings et fantasmer dessus. Et les agences ont très vite compris le truc. Et ont pas mal joué là-dessus. Après, on dit les agences, mais les idoles aussi aiment bien jouer dessus. Hein. Faut pas croire qu'ils sont tous forcés à faire ce genre de choses. Quand on voit quelqu'un comme Itzy des Super Junior, clairement, le mec est le roi du fan service, voilà, gay friendly et tout ça. Il a toujours adoré ça. D'ailleurs, c'est la bonne blague du fandom à chaque fois. C'est quand tu tapes sur YouTube Itchul Kiss, en fait, t'as plein de noms d'idoles qui sortent parce que le mec a embrassé sur la bouche, voire même avec la langue, une dizaine de mecs, quoi. Donc, voilà, ça c'était le point bon vieux fan service. Mais clairement, c'est ça le but, c'est de donner un petit peu au public ce qu'il attend au niveau des fantasmes et tout, parce que voilà, forcément, ça aide à promouvoir le groupe, à vendre du coup la musique qu'il y a autour et tatata. Après, enfin, c'est toujours le fan service. Faut bien rappeler que c'est du fan service parce que après, sinon, ça rentre un peu en collision avec l'homosexualité au sein de la Corée du Sud, qui est pas toujours du coup bien accepté, bien vécu. C'est un euphémisme. Donc souvent, c'est fait d'une certaine manière qui fait qu'on fait bien comprendre aux fans. C'est juste pour vous faire plaisir. C'est cette manière de faire qui fait on n'est pas un vrai couple, mais les interactions, on les fait quand même pour vous faire plaisir. Mais il y a cette espèce de, voilà, de c'est bien entendu pour tout le monde, quoi, que c'est carré comme histoire.
Et aussi, ça, en fait, c'est une stratégie, ce fan service, surtout chez les groupes masculins, c'est une
Oui.
stratégie qui était déjà en place dès la première génération
Tout à fait.
chez les groupes SM Entertainment. Et ça se voit très bien dans le drama Ngdompala. C'est tout le premier, c'est le 1997, où une JD des Pink. Est fan des H.O.T., je crois. Elle est fan des H.O.T. et elle devient scénariste. Son métier, enfin son métier quand elle est adulte, c'est d'être scénariste. Et elle réussit à être scénariste. Pourquoi? Parce qu'elle a écrit une fanfiction sur un couple entre deux membres du groupe.
Attends, tu parles des replays là?
Ouais, c'est ça.
Ok, c'est juste pour resituer parce que j'ai pas tout de suite compris que tu
Oui,
parlais de ça.
excuse-moi. Ngdompala, ouais, les replies. Et c'est le tout premier.
Ok, oui,
Mais
tout à fait,
non.
celui avec Eunji,
Voilà, c'est
ouais,
ça. Et
trop.
Sohyeon et Ohyeah des Infinite.
Oui, et surtout Oya, oui, puisque c'est du coup
Voilà. Et
un
qui
personnage
joue.
homosexuel.
Voilà. Donc, on va pas en parler. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on préparait l'émission. En fait, l'homosexualité est plutôt représentée de façon. Je dirais pas constante, mais il y a quand même beaucoup de drama sur ces 5 ou 6 dernières années qui ont un personnage homosexuel ou qui vont donner plein d'indices, pas toujours très subtils, pour en parler, même si c'est pas le but principal de l'histoire. Mais je veux dire, ça existe. Pour moi, en tout cas, j'ai vu plus souvent des dramas avec un personnage homosexuel que dans des séries françaises, par
Oui.
exemple. Voilà, donc juste pour ça. Donc. Mais bon, peut-être aussi on pourrait faire un épisode juste sur ça, sur l'homosexualité dans les dramas, mais bon. Donc le
Bah après,
reste.
souvent, c'est des petits rôles en marge, donc c'est plus une compilation de petites choses à faire. C'est un peu fastidieux, mais après.
Ouais. Donc tout ça pour revenir en tout ce qui est musique, donc le fan service, qui. Alors, moi je sais que par exemple. Je comprenais pas du tout le côté. Quand je suis arrivée dans la K-pop, je comprenais pas du tout comment c'était acceptable que deux garçons se prennent aussi facilement la main, que deux garçons soient aussi affectueux les uns envers les autres. Et puis au bout d'un an, t'es dedans, ça tout paraît, enfin tout paraît
Naturel.
naturel. Voilà, c'est tout à fait le mot, c'est naturel. Et ensuite, bon, après je me suis intéressée à la culture coréenne et tout ça, et je me suis rendu compte que en fait, ils n'ont pas du tout le même rapport au corps que nous, en tant qu'occidentaux, nous avons. Donc il faut le souligner aussi, c'est important que se tenir la main quand on est deux filles ou quand on est deux garçons, ça n'a aucune connotation. Quand on
Ben non,
est... Voilà.
justement pour eux, ils sont tellement axés sur les relations de sexe opposé dans la romance qu'au final, pour eux,
Il n'y a
il y
pas
a pas de
d'ambiguïté.
sous-entendu au
Ouais,
final,
il n'y a pas de
quand c'est des gens du
sous-entendu.
même sexe.
Voilà, tout à fait. Mais alors, quand je parle de stratégie marketing, c'est surtout quand on voit dans les concerts. Il y a toujours le passage obligé pour les groupes masculins de se travestir et d'interpréter une chanson en femme ou alors de s'habiller en écolière et donc il y a
Mais
tout.
ça aussi, ça recoupe la vision coréenne de la beauté, parce qu'il y a l'idée qu'au final, quelqu'un qui est vraiment beau est aussi beau en femme qu'en homme. C'est quelque chose de très ancré. Du coup, il y a tout l'aspect flower boy, tu vois.
Pour moi, l'ultime, c'était franchement. Enfin, l'ultime. Il y en a deux pour moi. Non, trois. Itchol, bien sûr. Non, Itchol,
Mitchell, bien sûr.
bien sûr. Après, j'ai. Celui qui, pour moi. Après, ça me mettait mal à l'aise parce qu'il était encore assez jeune à l'époque. C'était Taemin, des Shiny.
Alors que Taemin, enfin, honnêtement, il n'a pas trop bien vécu sa féminisation et qu'au
Voilà.
final, le mec, il est parti dans un délire viriliste sur la fin. Enfin, voir son We Got Married, c'est de la torture, quoi. Franchement, franchement.
Bah voilà, et donc en fait le et puis Jejun et
Et Jokwan, qu'est-ce qu'on en dit de Jokwan?
bah Jokwan, voilà, lui il fait partie de ces artistes
Avec une image queer, en fait.
voilà, lui dès le départ il a, enfin peut-être pas dès le départ parce que comme on l'a d'abord vu dans les 2AM, c'est un groupe à la base, c'est un groupe à balade, donc il avait une image sérieuse. Et puis ensuite on a vu le Jokwan dans les émissions de divertissement qui n'étaient pas du tout pareilles. C'était le gars très expansif, qui était très
Faible.
maniéré. Oui, ben très, oui, il avait des manières assez efféminées. Et du coup, tout de suite, il y a eu ces rumeurs comme quoi il était gay. Parce que dans tout ce qu'on dit là, tous les artistes qu'on cite depuis le début, à aucun moment on remet en doute leur hétérosexualité. Même si on sait qu'ils sont. Enfin, il y a le fanservice et tout ça. À aucun moment on remet en doute. Jokwan, direct, dès qu'il a commencé à faire les émissions de divertissement, tout de suite, les rumeurs sur son homosexualité ont commencé à circuler. Et moi, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles il a arrêté au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, il a arrêté complètement de faire des émissions parce que ça correspondait plus du tout à l'image qu'il voulait promouvoir en tant qu'artiste. Il avait l'impression, et il le dit dans ses interviews après, il avait l'impression qu'il n'était plus du tout reconnu en tant que moi, Jokwan, mais il était juste vu comme celui qui était là pour amuser la galerie. Et
C'est
amuser la
ça.
galerie d'une façon qui tournait en ridicule de toute une communauté qui n'avait, enfin, ça n'avait pas lieu d'être. Et du coup, Jokwan, là, il s'est lancé en solo. Au mois de janvier, il a fait son comeback. Il est revenu, il a fait un comeback très sobre, qui est complètement en contraste avec ses débuts où il était allé à fond dans la sensualité. Il avait les talons, il
Oui,
porte.
je me rappelle de
Ben
cette
ouais.
fameuse performance avec des talons hyper hauts. Il était comparé à Lady Gaga, c'était un délire et tout.
Et
C'était, ouais,
ouais,
ça fait
donc.
parler.
Mais pareil, c'est. On a quelques petites instances comme ça où franchement, et tu vois, le fait qu'il portait des talons et tout ça, quand Tita a fait ses débuts aussi, elle avait utilisé des danseurs, un groupe de danseurs qui aussi dansent en talons. Et là par contre, ça avait, enfin, le public n'avait pas du tout accepté, enfin pas du tout, faut pas exagérer non plus, mais le public n'avait pas accepté cette représentation de la sensualité à travers ces corps masculins. Et Jokwan, il est un exemple. Peut-être qu'il est arrivé trop tôt aussi pour la K-pop. Parce que
Pas faux.
peut-être que maintenant il le ferait. Peut-être que ça passerait mieux, hein.
Je pense, oui, qu'on est au début d'autre chose, très franchement. Je pense qu'on n'est pas non plus allé, peut-être pas encore assez loin, mais Ouais, on est passé de l'autre côté du miroir, non, peut-être pas quand même. Mais on est quand même, on est quand même allé assez loin là-dedans. Fait, on va dire que le public coréen accepte de plus en plus que la K-pop puisse avoir un côté queer, sans pour autant que ça change leurs mœurs et leurs pensées vis-à-vis de l'homosexualité, mais au moins. Ils cantonnent ça au moins au milieu artistique en disant bon, c'est un milieu artistique, c'est différent, donc ça va, ça passe. Tu vois, je trouve qu'il y a plus ça maintenant.
C'est après c'est les vu que j'ai pas trop suivi les groupes de la quatrième génération là, donc je suis au coup par coup, mais j'ai pas trop l'impression de voir la même unité que quand je suivais les comebacks des deuxième et troisième génération. Donc je sais pas trop comment ils se présentent en termes comment ils présentent leur visuel. Mais je sais que par exemple pour entre j'ai regardé pour les clips. Par exemple en 2009, tu vois. Non pas en 2009, en 2012 quand Kaewil avait sorti son clip de Please Don't. Donc il apparaît pas dedans, mais c'est un triangle amoureux entre Soyou qui est amoureuse de An Jaehyun qui est amoureux de Soyou. Soyou est amoureuse de An Jaehyun. Et So In-kook, c'était le meilleur ami des deux. Et pendant tout le clip, tu assistes en fait à la naissance de l'idylle entre An Jaehyun et Soyou. Et à la fin, tu vois So In-kook qui a le cœur mais brisé et les yeux qui pleurent. Enfin, il pleure et toutes les larmes de son corps parce qu'il assiste au mariage. Et c'est qu'à la fin, tu comprends en fait que c'est parce qu'il était amoureux de An Jaehyun et pas de Soyou. Et je me souviens quand le clip était sorti, tout le monde était. Enfin, les articles étaient dithyrambiques sur le fait d'avoir osé montrer ce genre d'amour, d'avoir mis en scène ce genre d'amour. Et les fans étaient réceptifs. J'ai lu une interview de Dan Cheyon de l'époque où il disait qu'il avait vraiment adoré participer à ce clip, qu'il était content d'avoir. De pouvoir.
Apporter sa pierre à l'édifice,
Ouais,
quoi,
c'est
en gros.
ça. Et surtout, et après, il a dit, mais de toute façon, celui qui avait le plus lourd fardeau à porter pour ce projet, ben, c'était So In-kook, parce que c'est lui qui jouait le rôle du gay. Donc, c'était pas, il était pas là non plus à vouloir se brandir comme le défenseur des droits de la communauté gay, parce que ça va aussi qu'il avait eu, entre guillemets, le beau rôle. Mais tout ça pour dire que quand on regarde les clips K-pop entre 2000, on va dire entre 2008, 2009 et jusqu'à 2016, j'en ai vu quelques-uns où on mettait en scène vraiment un amour gay. Mais alors, quand ce sont des femmes, il n'y a aucun problème pour aller vraiment dans, on va même montrer un baiser et tout ça. Et je crois que Hollande, son clip, là, il a fait 8 millions de vues parce qu'il a eu le rating de interdit aux mineurs, juste pour un baiser entre deux jeunes hommes. Et c'est ça aussi qui fait son originalité parce que je crois pas qu'il y ait eu de clip avant celui-là où on
Je suis
voyait.
pas sûre non plus. Je crois que jusque-là, tout ce qui était homosexualité masculine, c'était vachement suggéré. Il y avait
Ouais.
beaucoup de regards, beaucoup de jeux d'histoire, de romance, effectivement, et de choses comme ça. Mais frontalement, comme ça, un vrai baiser amoureux, ce genre de choses. Non, clairement, ça a toujours été du côté des filles, ça a toujours été accepté parce que voilà, les filles, c'est censé être tendre, et puis après tout, c'est aussi un fantasme masculin, ta ta ta. Donc voilà, au niveau des filles, ça a toujours beaucoup mieux passé. Mais pour les mecs, je crois pas que ça avait été fait avant, non. Ou alors de manière très confidentielle,
Ouais,
visiblement.
confidentiel
Ça
au
dirait.
point où
Ou on le sait pas.
bah ouais. Et donc les filles justement, donc il y a ce double standard hein, enfin double standard où on accepte complètement que deux femmes échangent un baiser parce que je me suis rendu compte que les Sistar elles ont un clip pour le titre One More Day qui est sorti en novembre 2016 où on met en scène deux femmes qui s'aiment. Et à la fin, elle tue le compagnon, enfin l'ex, je pense, parce qu'il était violent avec l'une d'entre elles, donc elle le tue
Ah, c'est beaucoup de
et elle
choses.
brûle son corps, oh, et elles repartent ensemble. Et tu vois, c'est genre, c'est l'amour fort et tout entre elles. Et il y a un baiser qui est changé. Donc la caméra change, enfin on change de plan juste avant que les lèvres ne se touchent.
Ouais, c'est
Mais
bon.
il y a vraiment un gros plan sur ça, quoi. Alors qu'avant, je crois pas qu'on aurait montré de façon aussi frontale. Et je sais pas si tu te souviens, en 2009, les After School, elles avaient fait un clip Because of You.
Ah, ça me dit quelque chose.
Et dedans, en fait, je crois que c'est il y a Nana, et puis je sais plus c'est qui les deux autres. Et en fait, on voit une relation entre elles. Et tout à la fin, on va dire qu'il apparaît deux, trois fois de façon très furtive dans le clip. On voit Song Jae-lim. Il a joué dans quoi récemment? Je sais même pas s'il a joué dans un truc récent. Tu sais, c'est un acteur et puis il a fait mannequin. Il est dans le clip de 2NE1. Là
Lequel?
où Ciel où Ciel est conduit une voiture. Enfin, oui, elle conduit une voiture.
Me dis K-pop,
Non, elle est, enfin, comment on dit en français? C'est l'anglais qui me vient. Course de voiture. Si elle est
t'as pas fini. Ah oui, ouais. Putain, mais je me souviens plus du tout, tu vois, mais
comment
c'est
il
trop,
s'appelle
oui,
ce
c'est
clip?
trop bien.
Et puis en fait, son copain la tape. Il lui donne des, enfin, on voit qu'il la gifle. Et ben, c'est son Jelim.
Oui, ça y est, ça me revient.
Mais attends, mais comment
Oui.
s'appelle ce clip? Je sais plus.
Alors, bah, c'est pas. Non, c'est pas Ugly. C'est
Non, c'est
pas.
pas Ugly, c'était. Non! Oh là là! Ah non,
Ouais, bon, en
attends,
même
non, je
temps.
cherche parce que c'est pas possible, hein. Parce que
Vas-y, tiens, cherche.
c'était un gros de un de leurs trucs. Ah non! J'ai honte! Non, 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 non. Non, non. Go away! Oh! Go away! Bon, écoute. Pour notre défense, le clip date d'il y a 7 ans.
Oui, bah, à un moment, oui, on peut pas non plus être tout le
Voilà, on peut pas
temps
tout retenir non plus,
authentique.
hein. Voilà. On est là, donc, il y a 7 ans, mais.
Tant qu'à faire, je suis retombée sur une vidéo, tu sais, de Kavil Entertainment, qui justement avait fait une grosse compilation, en fait, de chansons et MV gays et lesbiens en K-pop, justement. Et il y en a pas mal, en fait, parce que des fois c'est dans le MV et des fois c'est dans l'histoire de la chanson, en fait. Notamment, apparemment, Navidera de GFriend.
Ouais, alors ça, j'avais entendu qu'effectivement c'était très gay friendly. Alors j'ai pas regardé, enfin j'ai pas consulté directement les paroles en coréen.
C'est le genre de truc où apparemment les paroles suggèrent entre filles des amitiés améliorées, tu vois, des trucs un peu forts, quoi. Donc voilà. Il y a du Matt Clune, il y a du Suran, du Red Velvet, du Kawhid, effectivement, du Glam, du Nile Muse, After School, oui, Because of You, Brunei Girls, Abracadabra, purée, on n'en a pas
Ah
parlé.
ouais.
Ah, celui-là, il était un petit peu torride aussi. Bon, il était un peu dans la suggestion, mais beaucoup dans la séduction aussi. Donc
Mais
voilà.
excuse-moi, pardon, je suis malade. Mais celui que t'as cité juste avant, Glam.
Ouais, Glam, le parti XOXO,
Ouais, donc.
apparemment, c'est.
Mais elles avaient débuté, c'était leur message en fait. C'est pour quand je parlais de stratégie marketing aussi,
Ouais.
je crois elles.
Oh oui, non, mais d'ailleurs, il y a eu des dérives. Hein. Il y avait un groupe comme ça qui était débuté justement avec un concept gay. Enfin, c'est un peu ignoble. Du coup, c'était vraiment le. Je sais plus comment il s'appelait ce
Bah,
groupe.
tu vois, je m'en suis rappelé aussi, mais j'ai incapable de trouver le nom. J'ai
Ouais,
cherché,
pareil.
mais j'étais. Parce que je me rappelle, effectivement, ça avait créé toute une
Il
polémique.
s'appelait pas. Enfin, il n'y avait pas Homme dedans ou un truc comme ça. Enfin, Homme, c'est un autre groupe.
Oui,
Voilà.
ouais, mais c'est.
Mais
Non.
je sais pas. Je sais plus comment s'appelait ce truc. Mais clairement, oui, le concept de ce groupe, il était vendu sur le fait que. Sur le principe de l'homosexualité. Et que voilà, donc les membres étaient possiblement censés être tous gays ou je sais pas trop. Mais enfin, après, c'était le concept. Donc, tu sais pas trop au
Bon,
final.
ils ont pas
Bref.
marché, hein, donc de toute
Mais oui,
façon,
ils n'ont
voilà.
pas marché parce que de toute façon, quand tu dis le concept du groupe, c'est qu'on est gay au bout d'un moment. Tu sais, c'est comme les. Je sais plus comment elles s'appelaient, là, les quatre nanas qui étaient petites et le concept du groupe, c'est qu'elles étaient petites. Il y avait Mint, je sais plus comment elles
Ah,
s'appelaient.
Tiny
Tiny G, voilà.
G.
Et elles, le concept du groupe, c'est qu'elles étaient toutes petites, elles faisaient genre pas plus d'1,50 m toutes les quatre. Et enfin, je sais pas, moi, axer des concepts de groupe sur ce genre de détails, je trouve ça limite malsain, personnellement.
Ouais, pareil.
Voilà. Trouver ton identité propre, ton originalité. Par exemple, je veux dire, les Dreamcatchers, elles ont débuté avec un concept un peu horrifique, poupée gothique et tout ça. Ça, c'est un concept de groupe, quoi. Mais être petit ou être gay, c'est pas un concept de groupe. Arrêtez les agences, des fois, quand même. Voilà.
Mais alors, l'avantage du coréen, c'est que comme il y a pas cette notion de féminin masculin Pour
c'est ça en
genrer
fait.
les noms. Donc ça permet vraiment d'ouvrir les possibilités au niveau
Des textes.
de la créativité des paroles. C'est sûr que c'est plus facile, je pense, c'est plus intéressant d'un point de vue artistique
Ben,
d'écrire.
disons que chaque chanson qui parle d'amour peut se contenter de parler de l'être aimé, quoi. Parce que s'il n'y a pas trop de dénomination de féminin, de masculin, voilà, au final, interprétation libre. Et du coup, ça donne à la chanson une portée un peu plus globale et plus tolérante, quoi.
Moi, je sais plus, enfin, je me rappelle avoir traduit un article pour présenter une chanson, mais j'étais persuadée que les paroles, c'était en fait des paroles sur un amour gay. Mais j'ai cherché, ça fait 2 jours que je cherche, j'arrive pas à me souvenir qui c'était. Mais à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi je suis la seule à ne voir que ça peut être interprété de cette façon-là et pas d'une autre? Mais il y a plein de chansons en K-pop hein, qui peuvent qui peuvent avoir cette double interprétation, et ce sont les clips vidéo qui vont sceller l'interprétation finale, on va dire.
Voilà, en sachant que des fois ils vont pas totalement oser. Souvent, comme je te disais pour les filles, souvent ça prend l'allure d'une amitié améliorée en fait, voilà. Un peu intense, un peu voilà. Et puis souvent ils se contentent de ça dans les MV. Et bon, si ça peut faire passer le message plus en douceur, pourquoi pas, écoute.
Ouais, bah oui.
Donc là l'essentiel c'est que le message passe.
Et je sais, le dernier point, enfin c'est peut-être pas le dernier point, mais pour revenir au fait que l'amour gay pour les femmes est mieux accepté, je pense que les médias ont joué un rôle très important sur ces 5 dernières années. Parce qu'il y a, donc déjà quand Amber des FX est arrivée sur la scène musicale, c'était un ovni parce que il y avait jamais eu de. Enfin, le look tomboy avait déjà été adopté avant, par la première génération. Comme les Finkele et tout ça, elles ont toutes eu une période tomboy à un moment.
Mais c'est ça, c'était une période, c'était pas leur identité, quoi.
Voilà. Tandis que Amber, c'était vraiment. C'était
Qui elle
ça,
était, ouais.
ce qu'elle était.
Elle a insisté plusieurs fois d'ailleurs en disant que ça n'a jamais été son agence, que grosso modo elle avait été repérée en l'état et qu'on l'avait pas forcée à changer et que voilà, que bien sûr que le groupe comptait aussi là-dessus sur le point le sur l'image, mais qu'elle n'avait pas été modifiée pour correspondre au moule, quoi. C'est comme ça qu'elle était d'origine.
Et
Triste.
je me rappelle même qu'il y avait à l'époque on avait donc quand t'es fan de K-pop, quel que soit ton âge, tous les chanteurs c'est Oppa et toutes les chanteuses c'est Onni. Même si elles sont plus jeunes que toi, c'est Oppa et Onni. Et donc elle pour elle, les filles l'appelaient donc les filles, ce sont les filles qui appellent les garçons Oppa et les garçons appellent les filles Nuna. Et les filles appellent les chanteuses Onni. Ouais, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Bon, bref, et tout ça pour dire que quand Amber est arrivée, les fans filles du groupe l'appelaient comment?
Si, si, c'est ou pas.
C'était Oppa, mais je crois qu'on l'avait transformé d'une façon en fait où ça associe les deux. Ça fasse Oppa et Onni en même temps.
Ou non pas.
Je crois que c'est ça, tu ris, mais je crois que c'est ça. Je sais qu'il y avait une combinaison entre les deux, entre Oppa et Onni. Du coup, elle disait que ça la dérangeait pas, de toute façon, on l'appelle comme on veut
Et est-ce
l'appeler.
que les fans masculins l'appelaient Hyung?
Je me rappelle pas, je me rappelle pas. Mais peut-être.
En même temps,
Mais
les
peut-être.
tomboys, c'est plus une lubie féminine que masculine dans les fantasmes de fandom.
Après, Amber. Donc, elle a, de toute façon, elle a toujours été la seule dans ce couloir-là, on va dire.
Oui, ben.
Il y a aucun groupe qui s'est risqué à proposer.
Si, il y a un groupe, mince, comment il s'appelait déjà? Si, ça a été tenté, mais au final, le public n'est pas super réceptif parce que, contrairement à FX qui avait à côté, les nanas qui avaient le charme féminin classique pour compenser, ben. Au final, elles avaient pas du tout ça. Donc, je te dirai si je retrouve un truc.
Mais de toute façon, je sais qu'on. Tous les 2 ans environ, j'écrivais un article à l'époque. Est-ce que le concept cute peut toujours. Est-ce que tous les groupes féminins sont obligés de passer par un concept cute? Est-ce que tous les groupes féminins sont obligés de passer par un concept tomboy? Et clairement, le concept tomboy, quand il est vraiment adopté en tant que concept, donc ça veut dire que c'est pas l'identité de la chanteuse à la base, il y a une période où tous les groupes voulaient faire que ça. Et je crois que c'était juste après les 21. Après les débuts des 21, il y a eu plusieurs groupes, mais elles n'ont pas duré à chaque fois. Ou alors elles sont passées par, ou elles sont
Ouais.
retournées à une phase cute, justement parce que ça passait pas. On les trouvait trop, trop intenses, on va dire, et ça marchait pas.
C'était GI.
Ah
Donc il y
ouais,
avait
Global
GI.
Icon, ouais, Global Icon.
C'était
Ah.
Global Icon, voilà, et voilà. Voilà.
Ouais.
Je sais plus avec quel single elles ont commencé, mais je
Ouais,
crois
mais
qu'il
ça
y
avait
avait
pas
même des
marché,
Chinoises dedans.
ouais.
Ça n'avait pas marché du tout, mais voilà, ça a été tenté.
Ouais.
Bref, tu peux reprendre.
Ouais, et du coup, je sais plus ce que je disais. Non, mais oui, donc du fait que tous les 2 ans, en fait, les agences ont essayé. Et c'est vrai qu'après
Ouais.
2NE1, il y a eu plusieurs agences ont essayé de relancer un groupe avec ce genre de concept, mais ça n'a pas marché.
Avec Badass, parce qu'en fait, souvent les tomboys, comme il y a style masculin, attitude masculine, souvent ils les tentent dans des concepts un peu badass en fait. Et justement, une fois que 2NE1 a pas mal marché, parce que bah, l'agence en même temps était voilà, réputée pour son côté hip-hop, badass, les autres ont tenté le combo badass plus tomboy, sauf que badass, des fois ça passait un peu, mais tomboy ça passait rarement.
Ouais,
Donc voilà.
c'était pas top top. Et depuis, on va dire depuis, moi j'ai vu, je crois que la première fois que j'ai vu le terme girl crush dans un article coréen, ça doit peut-être dater de 2000, 2013, 2013-2014. Et en fait, les médias, ils ont vraiment popularisé ce terme de ces filles un petit peu, et c'est Ciel qui l'a, Ciel et Hyolyn, qui sont les plus représentatives de ce qu'est être une girl crush. C'est donc tu peux devenir lesbienne pour cette chanteuse.
Ah, ok.
Mais franchement, quasiment dans tous les articles, mais même dans le titre, hein, c'est juste pour surtout quand ils font des articles sur les photos et tout. Ouais, un tel, le girl crush,
Bah,
nanana, le girl crush. Ah bon?
pour te dire honnêtement, c'était carrément dans la première saison du coup, donc féminine de Produce 101, c'était carrément un des styles de chansons qui était proposé, c'est-à-dire qu'il y avait le style pur, le style sexy, le style voilà. Il y a un moment de la compétition, il y a plusieurs chansons et les filles doivent un peu se battre pour faire la chanson qu'elles veulent, et il y avait une chanson style girl crush et il y a beaucoup de filles qui voulaient la faire.
Ouais, mais c'est
Donc
ça.
effectivement, voilà, c'est totalement, on va dire, dans l'air du temps,
Ouais,
j'avoue
non,
bien.
mais et ça c'est vraiment les médias qui ont créé ce. C'est un concept maintenant, en fait.
Oui, c'est un
D'après ce que tu
concept
dis, moi, c'est
maintenant,
un
tout
concept. Ouais,
simplement.
donc c'est. Même si je comprends toujours pas vraiment
Moi
à
non
quoi
plus, mais
correspond sur le point artistique, je comprends pas toujours, mais ok,
voilà.
pourquoi pas.
Pourquoi pas?
Et donc, ben, tout ça nous amène à mon dernier point, c'est-à-dire ben, la médiatisation de comment les médias présentent cette culture, enfin, ce visuel queer et comment ils participent à cette mise en lumière de la communauté gay, enfin LGBT, non, 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 mais en même temps, tout en continuant à les cacher, parce que j'en reviens toujours à Hong Seung-Cheon qui reste le seul. Qui est la seule célébrité masculine à avoir fait son coming out. Et à
En
chaque.
fait, c'est assez simple au niveau des médias. Tant que ça a l'air d'être temporaire et d'être du jeu et d'être du fake, ça les gêne pas du tout de mettre en avant comme haha, c'est drôle. Haha, c'est oh là là, c'est un peu torride et ta. Voilà, faire un petit peu leur audience là-dessus. Mais voilà, dès que ça ressemble à un truc sérieux, bah, il n'y a plus personne, quoi.
Moi enfin je me rappelle c'est genre ça fait tellement longtemps mais je sais que pour Hollande là par exemple
Ouais.
j'ai vu c'est ce que je disais, j'ai vu des vidéos réactions de fans occidentaux qui disaient que c'était dommage qu'il n'y ait pas de stars actuelles de stars K-pop actuelles qui n'aient pas tweeté ou dit quelque
Ouais,
chose en sa faveur
partager massivement pour vraiment
ouais pour lui donner la
mettre les trucs en
visibilité.
lumière et eux-mêmes affirmer leur position de soutien, quoi, c'est ça?
Personnellement, je trouve pas que la chanson soit si bonne que ça. Honnêtement. Honnêtement, c'est mon
Je
point de
t'avouerai
vue.
que je me suis même pas intéressée au truc
Oui,
parce que
mais.
voilà.
Enfin, c'est une chanson très basique, je suis d'accord, mais. Voilà, c'est pas non plus, je pense, la chanson qui est tellement bien qu'au final, les autres stars se seraient dit, ben ouais, il faut que je la partage.
C'est ça, en fait, au bout d'un moment, on peut pas non plus demander au star system coréen de se mettre, enfin, d'être en pamoison devant un truc sous prétexte qu'une personne,
Voilà.
voilà, assume son orientation sexuelle. Au bout d'un moment, enfin, ça reste un milieu musical, et si la musique n'est pas non plus flamboyante. Au bout d'un moment, on peut pas demander à tout le monde d'être au taquet en disant ah ça c'est spécial au moins. Si voilà, c'est une chanson comme les autres quoi. Au bout d'un moment.
Tout à fait. Et il y a eu, en fait, les artistes, il y a plusieurs artistes en fait qui soutiennent la cause. Après, c'est peut-être pas de façon flamboyante, aussi flamboyante que
C'est ça.
certains le voudraient, mais ça existe depuis plusieurs années. Les Shiny ont eu l'occasion,
Oui.
enfin, ils soutiennent des marques de vêtements qui sont ouvertement pour la communauté. Enfin, je veux dire qui milite pour la communauté. Je me rappelle, et donc petit moment nostalgique avec Jonghyun, qui en 2013, il avait relayé la lettre d'une étudiante transgenre qui, parce que c'était une époque, parce qu'il a toujours été engagé politiquement, il a toujours partagé ses opinions politiques. Ça fait bizarre de parler de lui à l'imparfait. Et le pire, c'est que à la base, je suis même pas fan de Shiny, hein. Mais je sais pas, lui, ça a toujours été le gars, je sais pas, il avait un truc, bon bref. Et donc, il avait changé sa photo de profil Twitter en utilisant la lettre manuscrite que cette fille avait écrite, disant ben, pourquoi elle ne se sent pas bien dans son pays, dans cette université et tout ça. Et donc voilà, il a toujours montré qu'il était sensible. Et c'est pour ça qu'en 2016, quand il avait fait son concert, il avait fait une remarque sur le fait ben, qu'il n'était pas homosexuel, qui respectait les préférences des autres, enfin les orientations sexuelles des autres, mais lui ne l'était pas. Et plus, il avait fait une sorte de vidéo qui se voulait comique, mais en fait était raciste sur les Indiens, donc bon, c'était pas à passer. Le gars, direct après, il a présenté des excuses, mais vraiment de vraies excuses. C'était pas juste « je suis désolé si je vous ai offensé », c'était vraiment des « oui, effectivement, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà pourquoi je voulais le faire, c'était mon intention, c'est raté, et je présente mes excuses. » Mais bon, voilà, Jonghyun, de ce point de vue-là, rien à dire, quoi. Il était au top. Et il y a d'autres stars comme Gaïn,
Ah oui.
qui elle fait partie des égéries, je pense, pour la communauté homosexuelle de Corée du Sud, parce qu'elle a toujours été gay-friendly, elle est
Oui.
très à l'aise avec sa sexualité.
Tout à fait dans un pays qui l'est pas de manière générale.
Tout à fait. Et je sais que en 2015, Gaïn et puis Lady Alchabeth avaient participé à un grand événement pour la, enfin, I Am Pride. C'était un concert et puis c'était, en fait, c'était une grande fête qu'on avait organisée et elles avaient performé sur scène devant le public, quoi. Et donc
Le
ça prouve
soutien bien,
bien.
bien ouvert.
Ouais, donc je veux dire, il y a un soutien. C'est des choses que chaque star fait à son niveau et puis d'un point de vue personnel, mais c'est pas
C'est ça.
nécessairement là à être toujours sur Instagram et sur Twitter à te dire oui, il faut soutenir un tel et tout ça. C'est en fonction des occasions. Et
Ça, c'est plus, enfin, ça limite, c'est plus concret que juste dire je soutiens, d'être là dans les vrais moments où il y a des opportunités de, voilà, de festivals, de manifestations, des choses comme ça.
Et le fait aussi que bah, qu'on soit connecté grâce aux réseaux sociaux et que bah, la K-pop maintenant est vraiment connue sur la scène internationale, même si ça reste encore une niche, je n'en disconviens pas, mais les artistes, eux, sont conscients qu'ils peuvent avoir une audience en dehors des frontières de la Corée du Sud. Donc du coup, quand quelqu'un comme Siwon, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça lui arrivait de tweeter des trucs un peu homophobes.
Putain. Ah non mais
Mais alors, mais
le
Siwon, mais en plus l'hypocrisie de la chose, et à chaque fois c'est ce qu'on lui dit,
Chiwon
c'est que comme, vu tout le fanservice qu'il a pu faire avec les Super Juniors, comment il peut se permettre ensuite de faire des tweets où il sera, enfin, il
Mais
peut, il le fait à son titre personnel.
c'est ça, c'est parce que, enfin, Chiwon, clairement, dans sa tête, tu vois qu'il y a les trucs qu'il fait à un niveau professionnel et qu'à côté, il a une foi particulière. Parce
Oui, il est
que, voilà,
chrétien.
chacun une manière différente de vivre sa foi. Et clairement, Chiwon, elle a un peu la composante homophobe de la religion qui lui paraît naturelle, alors que ça lui a toujours paru naturel de l'autre côté pour le professionnel de faire du fanservice homosexuel. Donc c'est un peu, t'as l'impression que le mec compartimente beaucoup, tu vois. Mais ouais, c'est spécial, mais justement, ça rentre vraiment tout à fait dans le cadre de ce qu'on disait, c'est-à-dire que tant que c'est pas sérieux, ça va, mais après, dans la vraie vie, des vrais gens, faut pas trop aller là-dedans, quoi.
Oui, tout à fait. Donc, ben, je pense qu'on a fait le tour quand même de la question. Je sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose.
Non, j'ai l'impression qu'honnêtement, oui, effectivement, on a fait le tour. C'est voilà, c'est ce qu'on a bien expliqué le phénomène de il y a la vraie vie de enfin l'homosexualité dans la vraie vie dans le pays qui est la Corée du Sud, et il y a à côté tout l'aspect un peu queer, voilà, qui est de plus en plus toléré en K-pop, mais en même temps toléré parce qu'on considère que c'est réservé au milieu artistique. Donc c'est voilà, c'est un peu ambivalent. Mais après je veux dire, c'est souvent, ce serait pas la première fois que les milieux artistiques aident à faire accepter des trucs et qu'après ça gagne la société, quoi. C'est souvent par là que ça commence, ce genre de choses, pour ouvrir les mentalités. Donc, c'est un bon point, quoi qu'il arrive, même s'il reste cette hypocrisie latente de tant que c'est pas vrai, ça va. Malgré tout, ça habitue les gens, en fait, à un imaginaire, voilà, qui est très ouvert au niveau des sexualités, des amours différents, tout ça. Et du coup, les sociétés sont perméables à ce genre de choses, et tôt ou tard, ça améliore les conditions des concernés, quoi.
Et donc, bah, pour terminer, juste sur ce qui s'est passé en 2013, où il y avait eu le réalisateur Kim Jo Kwang-soo qui avait tenu une cérémonie, entre guillemets, de mariage avec son petit ami.
Ah, c'est vrai.
Et donc, bah, à ce moment-là, ça avait été un... Il y a plusieurs stars, en fait, qui avaient peut-être pas soutenu ouvertement. Enfin, je veux dire qu'il n'était pas là, ouais, on est avec toi et tout. Mais
Non, mais qu'il avait
oui,
félicité comme
qu'il
si
avait
c'était un
félicité,
mariage
voilà.
normal, quoi.
Tout à fait. Donc, c'était déjà une façon de montrer leur soutien. Et
C'est
Kim
ça.
Jo Kwang-soo avait toujours dit que son but, c'était de réussir à faire passer une loi sur le mariage pour tous.
Oui, il n'est pas
Donc,
sorti de l'auberge.
oui, ben oui, donc voilà, je pense que les. Je pense que là, les procédures sont toujours en cours. Donc là, on est en 2018, donc ça fait 5 ans. Je pense que les procédures sont toujours en cours. À savoir que il y a eu un cas l'année dernière sur. Enfin, il y a eu une polémique l'année dernière sur une sorte de vendetta qu'il y avait eu contre des militaires gays. Enfin, une vidéo avait circulé sur Internet où on voyait deux militaires en plein acte sexuel.
Ah ouais, carrément.
Oui, et du coup, on voulait absolument les retrouver. Et puis, je trouve aussi qu'il
Putain,
y
les
avait
pauvres.
leaké la vidéo. Donc, mais bon, en gros, c'est ça. Il y a aussi la question d'être comment vivre son homosexualité quand on est dans l'armée. Donc, donc, tout ça pour
Bah
dire que c'est.
ça c'est même une question qui est hors Corée du Sud, effectivement.
Ouais.
C'est enfin c'est l'armée, c'est encore vu dans le monde entier. Les militaires sont vus comme un milieu hyper
Hyper
viril,
viril,
et
ouais.
c'est-à-dire c'est pour
Macho.
ça que c'est des milieux où il n'y a pas énormément de femmes de base. Mais voilà, donc forcément, ça c'est une question qui est délicate partout dans le monde, quoi, du coup.
Donc, tout ça pour dire que c'est toujours un sujet d'actualité.
Ouais.
Et puis, ben, du coup, le fait d'en avoir parlé, ben, je me dis franchement, il faudrait qu'on fasse le podcast sur l'homosexualité dans les dramas. Parce que
Ouais,
franchement,
il y a de
c'est
la
hyper
matière, ouais, il y a de la
intéressant.
matière.
Mais bon, ça voudrait dire qu'il faudrait trouver le temps. Et puis, ben, je
Ouais,
sais pas.
c'est
Ben, après,
toujours le même débat.
ceux qui nous écoutent, ben, dites-nous, donnez-nous votre avis si ça vous intéresserait de faire un. Si ça vous intéresserait d'entendre nos avis sur la question, l'homosexualité dans les dramas coréens.
S'il y a aussi des personnages que vous avez à l'esprit qu'on ne connaît pas forcément et que vous avez envie qu'on se documente un peu sur certains dramas qu'on ne connaîtrait pas forcément. Parce que c'est vrai que forcément, on ne connaît pas tous les personnages gays qu'il y a dans les dramas. Et si vous avez des suggestions, du coup, à nous faire sur des dramas avec des personnages gays qui sont intéressants, notamment, ça nous aiderait à approfondir le sujet, parce que souvent, c'est le personnage qui est un peu mis de côté et tout ça. Contrairement à Oya, qui est pas mal intéressant, je
Ouais.
trouve,
Bah, il y a. Bah, moi,
qui
franchement, enfin, je trouve la plus belle représentation de l'amour gay,
est...
c'était le drama Beautiful Life. C'était un
Ok.
drama du week-end, donc il faut s'accrocher parce qu'il y a genre 60 épisodes,
Ah
63 épisodes. Et en
putain.
plus, il y en a 63, c'est parce que le public était tellement, tellement content que ils ont rajouté une dizaine d'épisodes. Et du coup, les
Ah,
dix
mais
derniers
carrément.
épisodes, l'histoire tourne en rond et tout. Mais c'est pas grave, parce que dedans, il y a l'amour entre. C'est le fils aîné,
Ouais.
Taesom, Donc il est médecin, il avait tout pour être. Enfin, il remplit toutes les conditions du bon fils, du premier fils. Et il tombe amoureux d'un photographe, papa. Et le photographe. Et donc en fait, pendant tout le drama, c'est de voir comment lui-même il accepte le fait qu'il est amoureux du photographe. Parce que le photographe a fait son coming out.
Ah, ok, ouais,
Ça, ça, ça,
ça aide.
il a divorcé. La mère de sa fille justement veut l'empêcher de voir sa fille, donc c'est aussi son combat, c'est un peu sa storyline aussi à lui de réussir à récupérer, enfin voir sa fille.
Ouais, c'est intéressant.
Mais franchement, ce drama, je le recommande trop. Enfin bon bref, on va pas partir sur les dramas. On peut passer à la partie recommandations.
Tout à fait, je te laisse commencer.
Moi, du coup, en recommandations, j'en ai que deux.
Ah ben, j'en ai plus que d'habitude, ça compensera.
Bah ouais,
Parce
ça
que d'habitude,
compensera.
c'est le contraire.
Oui, mais c'est parce que franchement, j'ai pas eu le temps d'écouter vraiment. Et puis, en
Voilà.
fait, ce que j'aurais recommandé, ce sont des artistes que j'ai déjà recommandés la dernière fois parce qu'ils ont sorti d'autres
Ah,
choses.
ouais.
Gentita, elle a sorti.
T'as peut-être aussi des insatisfactions à partager à ce moment-là ou des trucs qui t'ont un peu déçu au final.
Non, même pas, j'ai envie de rester
Non, même
positive.
pas.
Non, même pas, j'ai envie de
Ok, t'es
rester
positive. Bah écoute, tant
positive.
mieux.
Donc, ce que je vais recommander, donc, j'en avais pas parlé la dernière fois parce que j'avais pas encore vraiment écouté l'album. Donc, c'est l'album posthume de Jonghyun.
J'ai toujours pas eu le courage de l'écouter.
Ouais, bah ouais, moi aussi, il m'a fallu du temps en fait. J'ai acheté à ma soeur et j'ai eu du mal. Quand j'ai vu la pochette, je me suis dit, non, mais franchement, j'en revenais pas quoi. Et donc voilà, je le recommande parce que artiste talentueux, c'est vraiment dommage qu'il nous ait quittés comme ça. Et l'autre titre que je recommande, alors c'est une chanson, je pense, qui est parfaite pour le printemps. Même si j'ai pas encore trop compris où est le printemps, mais c'est Ocean, donc c'est un groupe, ça fait une dizaine d'années, même plus, je crois que ça fait une quinzaine d'années qu'ils existent. Il y a eu des changements de membres, et ils sont plus vers la trentaine, enfin ils sont plus vers la quarantaine, on va dire maintenant. Et c'est du R&B, et enfin là ils sont un peu plus pop, je trouve. Depuis 2-3 sorties musicales, ils sont un peu plus pop. Il y a eu les services militaires et tout ça, donc ils ont fait une longue pause. Et là ils ont sorti un single qui s'appelle Love Takes Time. Et franchement, c'est frais. Voilà. Vas-y, à toi, Vicky.
Du coup, moi, je vais commencer sur un truc mitigé, c'est le projet NCT 2018. Ah, disons que le projet avait été un peu annoncé en grand pompe, c'est-à-dire qu'en 2018, on devait avoir donc un gros truc. On nous avait annoncé frontalement 6 MV, un full album, ta-ta-ta, donc on s'est dit, waouh, comment ils vont nous boutiquer ça? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs unités, que pour l'instant, chaque unité, quand ils font un comeback, ils ont un mini-album. Donc là, c'était le premier full du projet NCT, et puis ils avaient vraiment fait plein de teasers vidéo sur NCT 2018, on va réunir tous les membres, ta-ta-ta. On s'est dit, oh là, le bazar que ça va être. Et au final, il s'est trouvé qu'ils se sont amusés à faire des MV pour un peu toutes les unités qu'ils avaient sorties. Oui, si je ne me trompe pas, les You, les 127 et les Dream. Et enfin, le truc, c'est que stylistiquement, ils n'ont absolument pas respecté les styles qu'ils avaient mis en place pour chaque unité. Notamment les You font quelque chose qui sonne entre le You et le 127. Les NCT Dream ont complètement lâché leur image de groupe pour collégien un peu pur pour un comeback un peu badass comme auraient fait les 127. Et les 127 ont fait un comeback cute, hyper coloré. Donc, Déjà, moi qui étais attachée en fait au fait qu'il y ait des concepts qui distinguent les unités, j'ai un peu fait la gueule, hein. Enfin, tous les gens qui m'ont entendu parler du truc, qui ont vu passer les quelques articles, parce que j'ai pas eu le courage de faire des articles pour tous les MV, parce que au bout d'un moment, c'était beaucoup de grognements, et voilà. Et après, bon, c'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'en fait, c'est typiquement le genre de concept où on a l'impression que l'agence retourne sa veste tous les 4 matins. Et par exemple, là, on a eu que 4 MV, je crois qu'il y en a un autre qui va bientôt arriver. Au niveau des unités, c'est un peu le dawa parce que grosso modo, il y a 2 MV qui ont été publiés sous You, sauf qu'il y en a un, c'est un duo. Et l'autre, il y a des nouveaux membres qui ont été présentés, c'est Lucas et Junwoo. Bref, je sais plus. Jung, je crois. Bref. Les deux, tout, à chaque fois qu'il y a un Jung et un Woong, je m'en mêle dans tous les pseudos d'idol qu'il y a comme ça. Et du coup, voilà. Enfin, c'était le MV un peu prétexte pour présenter de nouveaux membres. Donc, je lui dis, voilà, pourquoi pas. C'est le NCT U, c'est la chanson Boss, qui est franchement pas mal. J'étais un petit peu en mode ouais, c'est pas comme. Parce que le NCT U, on avait eu jusque-là une balade en trio plus une performance, enfin un MV performance avec Seven Sense. C'est ce qui avait présenté le projet NCT, ça avait été beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Et la chanson Boss reprend. Enfin, t'as un peu de vibe de NCT U, mais grosso modo, le comeback aurait totalement pu être un comeback des 127. C'est vraiment le même feeling, c'est quasi la même composition. Enfin, il manque. En fait, ils ont. Enfin, grosso modo, ils ont gardé de 127 tous les membres de U, mais les membres de 127 qui auraient le plus correspondu à ce concept ne sont pas dedans, du coup c'est un peu frustrant que ce soit pas un MV des 127 et une chanson des 127. Bref, ce truc m'a un peu énervé parce que je me suis dit ouais, c'est une chanson que j'aurais vachement appréciée si elle avait été chantée par une autre unité. Donc c'est voilà. Par contre, le MV est franchement très bien, il n'y a pas de souci, c'est bien foutu, c'est en même temps c'est l'ASM, elle a les moyens, tatata. Mais après, voilà, franchement, la chanson Touch des 127, c'est le genre de chanson qui passe bien quand on l'a sur le disque, mais clairement, ça n'avait pas besoin d'avoir un MV, surtout un MV avec cette gueule-là. Go, NCT Dream. La chanson, c'est typiquement le genre de chanson badass qui m'intéresse pas des masses, parce qu'on a un peu l'impression que tous les groupes qui font du badass font un peu la même chanson. Et là, j'ai eu cette sensation-là, sauf qu'en plus, ils ont du coup coupé avec le concept un petit peu innocent et vraiment joyeux des Dream pour aller dans cette espèce de truc un petit peu sombre et tout, voilà. Mais du coup, enfin, on n'a pas encore eu tout ce que le. Puisqu'il y a encore au moins 2 MV, je crois qu'il manque, si je me plante pas, un ou deux, bref. On n'a pas encore tout eu. J'ai pas écouté l'album, mais l'album, c'est un peu de l'arnaque parce qu'apparemment, il y a. Sur 13 titres, t'en as 5 qui viennent d'avant. Notamment, il y a un Station dessus. Il y a un SM Station sur l'album, le full album, le premier full album de NCT, quoi. Les Stations, c'est censé être des projets indépendants, donc de l'ASM. C'est un single digital plus un MV qui sort toutes les semaines. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes hors SM qui collaborent avec ça. Et il y a aussi des artistes de l'ASM qui font des chansons pour le truc. Et ils ont collé un Station sur l'album. Donc, enfin, tu vois, c'est un peu c'est un peu la
L'arnaque.
mauvaise foi, quoi. Je vais enchaîner sur Samuel. Donc, pour rappel, du coup, Samuel, c'est le pauvre petit garçon qui n'a pas été gardé dans le groupe 101 de la deuxième saison de Produce 101 parce que voilà, il y avait une histoire de Mnet qui avait en fait donné les résultats un peu trop tôt et le mec c'était du coup, enfin grosso modo tout le monde pensait que sa place était acquise dans le classement et du coup tout le classement a bougé et il y a plein de gens qui étaient genre dans le top 5 tu vois il y a quoi, il y en a 9 ou 11 membres du groupe, bref je sais plus, 11 je crois, et il y a plein de gens qui se sont effondrés dans le top, il y a des gens qui sont sortis de ce top et tout le monde était dégoûté et notamment Samuel qui était bien classé depuis le tout début de l'émission. Il est sorti du top de justesse, fort heureusement. Le mec est signé chez Brave Entertainment. Il avait déjà eu plusieurs fois. Le mec a plusieurs fois débuté depuis plusieurs années, notamment dans le duo One Punch. Faut savoir que Samuel est très 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 jeune et que franchement je connais personne qui est aussi jeune et qui a débuté aussi souvent, sauf peut-être Janet qui était dans les GP basiques notamment, qui est aussi une fille qui a commencé très jeune et qui enchaîne les débuts. Et là du coup il a eu ses débuts solo après l'émission. Tu sens que Brave Brother était au taquet pour lui faire sa carrière, tu sais, en mode si ça passe pas dans le groupe, nous on est prêts, tu vois, à démarrer derrière. Et cet été il a commencé avec le single 16 qui était très mignon, qui était très très entêtant surtout. Et que j'ai beaucoup aimé parce que grosso modo ça gardait l'image un peu innocente qu'il a. Parce que enfin, Samuel c'est particulier parce qu'il a 16 ans, mais il a souvent la tête d'un garçon de 13 ans et demi.
Oh, t'es
Et ça peut
précis,
faire
hein,
très
13 ans
très
et demi,
innocent.
hein.
Hein?
J'ai dit t'es précise, 13 ans et demi.
Non mais tu vois, il a un air ultra juvénile parce qu'il y a des
Oui, bah
mecs de
oui.
16 ans, même chez les Coréens, qui font un peu mature et tout. Et lui, pas du tout. Il a souvent des têtes. Enfin, t'as l'impression qu'il... Comme je le dis souvent, t'as l'impression qu'il sait pas comment on fait les bébés, tellement il a l'air innocent, tu vois. Et du coup, son premier single, 16, honnêtement, était parfaitement sur cette image-là. Son deuxième single, qui est sorti en fin d'année 2017, c'était Candy, était un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il commençait à essayer de lui donner une petite image un peu virile, mais en même temps en mode autodérision, tu vois. Genre, tu le vois un petit peu réparer une moto, faire de la moto sur des plans en fond vert et tout. Mais c'est un petit peu tourné en dérision, c'est pas trop trop pris au sérieux. Et la chanson était encore très sympa, très catchy, c'est du Brave Brother. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux jusque-là, 16 et Candy. Par contre, là, Samuel, il y a moins d'une semaine, est revenu avec un nouveau single. À savoir qu'en fait, il sort des trucs à peu près tous les 2 à 4 mois, du coup, depuis la fin de l'émission. Et en fait, son agence essaye de nous faire croire que tous les 2 à 4 mois, le mec prend un an au niveau du visuel, tu vois? Et du coup, genre, il a débuté à 16 ans et là, il a déjà 18 ans au niveau du visuel, tu vois? Voilà. Donc, One, en fait, c'est le premier MV qu'ils font de manière et ambitieuse et sérieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'autodérision sur le côté un petit peu viril et tout. C'est vraiment pris au sérieux. Et en fait, c'est une chanson, c'est le genre de chanson un petit peu patchwork. C'est vraiment une chanson qui est électro de bout en bout, mais avec des mouvements différents de musique électro. Et du coup, ça reste cohérent, mais la chanson est très diversifiée. Et du coup, c'était un peu, voilà, la surprise. Comme je disais, c'est pas le MV de la maturité non plus, mais c'est au moins le MV de la crédibilité. Très vite un petit crochet par Henry, parce que c'est vrai enfin Henry c'est il y a eu des périodes, Henry des Super Junior M, il y a eu des périodes où sa carrière était plus mise en avant, et on l'a un petit peu oublié, mais le mec continue en fait de faire des trucs, même s'il est pas aussi voilà, disons que ce que font les Super Juniors en solo est un petit peu plus confidentiel depuis qu'ils sont sous leur propre label dans la SM, c'est le label SJ. Et du coup, les trucs sont un peu moins annoncés en grand pompe et tout, mais malgré tout, ça permet aux mecs de continuer leur carrière et à l'ASM, je suppose, de se délester un petit peu de ce côté-là. Et Henry a sorti une chanson à la fois en anglais et en coréen, c'est Monster. Et c'est une chanson très très sympa, un peu acoustique à la guitare, avec un MV en noir et blanc et tout. C'est pas la sortie du siècle non plus, mais franchement, c'est très sympathique. Donc c'est vraiment ce genre, ça fait plaisir, il continue sa carrière et voilà, c'est typiquement un peu comme Jonghyun, le mec qui est très investi dans tout ce qui est compo et écriture, donc ça fait plaisir de voir qu'il continue son bonhomme de chemin, même si c'est pas le plus médiatisé de l'agence. Donc voilà pour Henry. En comeback qui a fait pas mal parler, donc on a les Mamamoo avec Starry Night. Et moi, donc, j'ai une relation un petit peu complexe au title track des Mamamoo, c'est-à-dire que je considère, enfin, je prends bien en compte à quel point les nanas sont talentueuses. Je considère que la musique est de qualité, mais les chansons ne correspondent absolument pas à mes goûts. Alors que les MV sont géniaux et tout. Enfin, les Mamamoo, pour moi, il y a un petit côté nouvelle Brown-Eyed Girls. Je sais pas ce que t'en penses, Patra, là-dessus.
Comme personnellement, depuis qu'elles ont fait leur truc de blackface, j'ai arrêté de suivre. Donc,
Voilà.
je me suis pas penchée sur le cas Mamamoo, mais je me rappelle qu'à leur début, je m'étais dit, ah, Ça, c'est un groupe qui peut m'intéresser parce qu'elles avaient commencé, c'était un truc un peu pop jazzy, un truc comme ça. Et ouais, je sais, tu m'as dit que tu n'avais pas suivi à l'époque, mais moi, oui.
Ouais.
Et ensuite, effectivement, un talent vocal indéniable.
Indéniable.
Indéniable. Elles ont un visuel qui a un impact quand même, qui est assez intense aussi.
Bah, c'est ça, c'est là-dedans, tu vois, que je vois un peu le nouveau Brunei Girls, parce que c'est vraiment les nanas qui vont être très assumées, très sexy et très matures dans les
Mais le
concepts,
truc,
tu
c'est qu'avec les Burnout High Girls, que moi j'ai. Enfin, là où je vois pas trop la comparaison, c'est que les. Tout ce qui est gaïne et tout ça, elles ont un côté mature, mais c'est vraiment femme d'une sensualité incroyable, tandis que les Mamamoo, j'ai toujours l'impression que c'est une sensualité un peu
Plus
surjouée, et
jeune. Ah
puis
ouais, tu
un
trouves?
peu candy. Et... Après, c'est par rapport à mon impression, hein, vu que j'ai jamais suivi vraiment leur carrière de façon stricte.
Après les Brunei Girls, elles ont quand même pris du galon depuis, tu vois. Par
Mmh.
rapport à les Mamamoo, elles sont quand même en début de carrière, mais bon, je veux dire, elles sont quand même
Ouais.
plus jeunes, leur image est plus jeune aussi. Et les Brunei Girls de l'époque de Sign sont pas les mêmes que les Brunei Girls de la période de Kill Bill, par exemple, tu vois, c'est
Ouais, c'est
pas les mêmes
sûr.
images.
Je sais pas, il y a un côté plus moderne et plus moderne chez
Ah
les
oui.
Brown Girls que je trouve pas chez Mamamoo. Enfin, je sais pas.
Ouais, les Mamamoo sont quand même, bah, elles ont ce côté un tout petit peu moins girl power, décomplexé à fond et tout.
Ouais,
Mais
ça
je
doit être
trouve
ça.
que c'est, enfin, il y a comme les Brunei Girls faisaient un peu figure d'ovni. Je trouve que Mamamoo c'est quand même c'est la première fois qu'on a un groupe qui se rapproche du visuel et de l'intention Brunei Girls au niveau de, tu vois, de l'image. Je trouve
Ouais,
que
mais bon, je les
jusque-là,
aime
les
pas,
nanas qui
donc.
ont essayé de faire ça, tu vois, elles avaient pas la carrure. Tu vois, les Mamamoo, elles ont la carrure.
Ouais, mais je les aime pas, donc je vais même pas essayer de... C'est même pas la peine.
Ok.
Vas-y, je te
Donc
laisse parler de
voilà,
leur
je
titre.
reviens sur donc Starry Night, et il y a eu aussi le MV de Everyday qui est très sympa après. Moi justement, j'aimais pas du tout musicalement ce qu'elle faisait. Je trouvais pas ça mauvais, mais c'est juste que j'avais pas envie d'écouter le style musical qu'elle faisait. Et sur Starry Night, elles sont venues sur quelque chose d'un peu plus contemporain, un peu plus électro. Et le MV est très très magnifique au niveau de la réalisation, au niveau des tenues. Les filles sont magnifiques. Je veux dire, même les accessoires sont magnifiques. Je veux dire, j'étais captivée même par leur boucle d'oreille, quoi. C'est dire la beauté du MV. C'est franchement, c'est. Starry Night est magnifique de l'aveu de tous, franchement. Et la chanson est très sympathique et beaucoup plus dans mes goûts, donc ça m'a fait plaisir. Et Everyday aussi passe bien. Bon, le MV est beaucoup plus classique de Everyday, mais la chanson passe bien auprès de moi et tout. Ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ah ben c'est cool, je peux écouter un petit peu du Mamamoo. Parce qu'avant, c'est tout le monde en parle et puis toi, tu t'en fiches un peu, donc c'est triste, tu vois.
Non, pas trop, non,
Donc
c'est pas
voilà.
trop triste, mais bon.
Ouais, non, mais si, enfin, tu sais, quand tout le monde a l'air enthousiaste autour de toi, t'as envie de kiffer aussi, tu vois, quand t'y arrives pas, tu te sens un peu, voilà, un peu délaissé. Donc là, je suis contente, j'aime bien. Et je vais parler pour terminer d'un girls band dont je pense qu'elles sont aussi sur la bonne pente et que j'ai envie de continuer à les suivre, c'est les Gugudan. Donc, c'est un girls band de la Jellyfish. Y a des nanas de Produce 101 dedans. Et donc c'est l'agence d'Evix, donc une agence qui peut créer des attentes chez pas mal de gens, dont moi. Et les deux derniers comebacks qu'elles ont fait, j'aime beaucoup. Donc il y a eu Chococo, que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu délirant et qui est totalement assumé dans son délire. Et au niveau du MV comme de la chanson, ça va crescendo vraiment dans le délire. Part au début dans une fabrique de chocolat où tu comprends que les nanas ont pas trop le droit de goûter au chocolat, que ça les frustre un peu, et puis ça part dans des parodies de marques de chocolat connues avec des tsunamis de chocolat, enfin tu vois le truc qui va crescendo dans le délire. Et la chanson est très 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 catchy. Il y a beaucoup de petits bouts de mélodies différentes. En fait, la chanson est très répétitive, mais il y a beaucoup de morceaux mélodiques différents, ce qui fait que même si elle est répétitive, t'attends le moment que t'as préféré dans toutes les petites mélodies. Du coup, c'est voilà, c'est entraînant, j'ai beaucoup aimé. Et là, elles ont sorti en début d'année la chanson The Boots. Donc en fait, leur credo, c'est plus ou moins de revisiter les contes, d'après ce que j'ai compris. Et Chococo, c'était un petit peu le côté Charlie, la chocolaterie. Et The Boots, en fait, c'est un peu la revisite du chapeauté, en fait. Et du coup, moi, j'avais pas compris sur le moment, franchement, c'est en lisant des trucs sur le MV, parce que grosso modo, t'as beaucoup de dieux qui brillent et de choses comme ça, mais tu dis, elles ont des yeux lumineux, tu te dis pas, elles ont des yeux de chat, quoi. Bref, le truc est pas exploité à fond dans le MV, c'est juste qu'elles sont un petit peu sexy et tout. Par contre, la chanson est très sympa. Le premier couplet, tout ça, est assez classique. Par contre, après, au niveau de l'électro, ça monte en puissance vachement sur le refrain, et y a un vrai gros breakdance badass. Et ça, c'est un petit peu inattendu, parce que moi, je les suis pas trop, franchement, c'est le genre de groupe où je reste un peu à distance, je regarde de temps en temps, mais ça me fascine pas, parce que je sais que j'aime bien je sais que j'aime bien les capacités des filles, en fait, en termes de chant, de danse, j'aime bien ce que fait l'agence, en règle générale, mais jusque-là, les chansons m'ont pas plus captivé que ça, alors que Shokoko et The Boots, du coup, ça fait deux titres d'affilée qui me convainquent vraiment. Et en fait, l'agence arrive en fait à décliner l'image du groupe des filles, c'est-à-dire à travers des concepts un peu plus cute, un peu plus fun, un peu plus sexy, un peu plus badass, mais subtilement quoi, pas comme la Cube Entertainment avec les CLC qui fait un comeback pur, un comeback badass, un comeback pur, un comeback badass. Et je me dis, mon Dieu, mais enfin, l'image des filles, c'est bizarre. Moi, je m'y retrouve pas du tout dans la carrière des CLC. Alors que je trouve que quand c'est fait avec un minimum de subtilité, comme ça, au niveau on y va petit à petit, et l'image des filles, en fait, on la nuance progressivement, tu vois. Ça, je préfère. Bah, c'est au niveau. Les SNSD, notamment, ont été vachement promus comme ça, avec du cute au début, puis après, petit à petit, on leur fait faire des choses un petit peu plus fun, un petit peu plus coquines, et puis après, on va dans des trucs plus sexy, plus sombres. Tu vois, il y a eu cette espèce de progression, et je trouve que ça, c'est bien en termes de gestion d'image de groupe. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour pas braquer le public, tu vois, et pour pas que le public se dise, ouais, mais moi, j'ai mis un groupe qui faisait ça, pourquoi maintenant il fait totalement l'inverse, quoi. Tu vois, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu maladroit de la part des agences qui arrivent pas à bien gérer. Et je trouve que l'image des Gugudan, pour l'instant, est bien gérée, qu'elles ont leur petite popularité, parce qu'il faut savoir qu'elles ont, parmi les leurs, la nana qui avait été première, c'est Sejong, qui avait été première dans Swan01. Elles ont une autre fille, mince, comment elle s'appelle déjà? Anna? Ina? Bref, je sais plus. Je m'y perds à force. Qui, du coup, elle aussi était très... avait été très très populaire dans l'émission. Et du coup, il y a une bonne fanbase de base du groupe, et je pense qu'honnêtement, si l'agence continue de bien les gérer, parce que là, je crois qu'elles ont fait surtout des mini, et Vix avait fait pareil, il avait sorti surtout des singles et tout, tu sais, à un moment, ils avaient sorti un gros full, tu vois, qui récapitulait ce qu'ils avaient fait depuis le début. Et je pense franchement que Gudan est parti là-dessus, en fait, voilà, de faire des petits bouts de morceaux choisis, et qu'à un moment, on va nous sortir un gros full avec un gros comeback. Donc j'attends et je suis vraiment le groupe, parce que je pense que l'agence est partie pour bien gérer leur carrière. Donc on croise les doigts, mais ça se passe bien pour le moment. Voilà, pour moi, ce sera tout du coup.
Ok. Ben juste, j'ai pas écouté, mais du coup, tu m'as donné envie d'écouter. Mais Jellyfish, franchement, pour moi, Vix, c'est la plus grosse déception en termes de popularité par rapport à l'investissement qu'il y a dans les concepts. Parce que pour moi, c'est le groupe qui a les concepts les plus recherchés, mais c'est vraiment à chaque comeback qu'ils ont pu faire depuis le début de leur carrière,
Ah mais bon, parle pas. Moi,
c'est
franchement,
toujours.
j'étais. En plus, moi, j'étais là au premier comeback quand les gens se sont dit, oh, encore un groupe mignon et
Ouais,
tout.
ouais,
J'étais,
ouais,
non, mais
ouais.
la chanson, elle est super cool, les gars, restez sur place. Et effectivement, deux comebacks plus tard, ils commençaient leur era sombre, tu vois. Et ouais, franchement, depuis le début, les mecs, c'est des bons. Déjà, ils ont des leads vocaux relativement solides, ils ont un très bon danseur, ils ont un rappeur qui tient carrément la route. Ils ont une sub-unit qui est très bien aussi, les Vix LR avec Léo et Ravi, qui a sorti, je crois que pour l'instant, ils ont fait deux promotions, donc un premier, les débuts, et un comeback qui était super, et les débuts étaient bien aussi. Mais Ravi fait sa carrière solo aussi à côté d'ailleurs. Je crois que Léo a dû faire quelque chose en solo, ou je sais plus trop, mais enfin, clairement, le groupe a un gros potentiel, et il y a les moyens de faire, et l'agence a mis les moyens, mais c'est clairement, je pense, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il y a pas assez d'autour. Après, honnêtement, en France, la fanbase est quand même pas mal, franchement. Mais après, en Corée du Sud, je sais pas trop.
Ouais, bah, c'est ça. Enfin, c'est vraiment
C'est
dommage
ça.
qu'ils aient pas plus eu de reconnaissance sur la scène mainstream, on va dire, parce que bah, je pense que c'est juste, ils sont jamais. C'est peut-être une histoire de timing.
Ouais, bah, et 2012, hein. EXO,
Ouais.
VIP, B2B,
Ouais,
voilà
voilà,
quoi.
c'est ça. Mais
Donc
ouais, moi,
c'était.
c'est ma petite déception. Mais bon, ça pour dire que Jellyfish, de ce point de vue, c'est une bonne agence.
Ouais, ouais,
C'est une
ouais,
bonne agence. Et donc voilà, bah ok, bah c'était super, merci pour toutes ces recommandations. Bah on va s'arrêter là, je pense. J'espère que cet épisode vous a plu. On essaiera de revenir une dernière fois avant les grandes vacances quand même.
Oui, on va bien se trouver un créneau.
Ouais, on va réussir à se trouver un créneau. Puis vous nous dites ce que vous pensez du sujet homosexualité dans les dramas. Et puis, vous nous contactez sur Twitter, il n'y a pas de souci, à Ego de France. On répondra à vos messages, c'est sûr. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à partager. Et à très bientôt.
Salut!
Salut!